Il saluait, debout à la portière, puis il entra vivement dans le vestibule de la grande porte du cercle, jeta son pardessus et sa canne à la compagnie de valets de pied qui s'étaient levés comme des soldats au passage d'un officier, puis il monta le large escalier, passa devant une autre brigade de domestiques en culottes courtes, poussa une porte, et se sentit soudain alerte comme un jeune homme en entendant, au bout du couloir, un bruit continu de fleurets heurtés, d'appels de pied, d'exclamations lancées par des voix fortes. « Touché !»« À moi !»« Passé !»« J'en ai !»« Touché !»« À vous !» Dans la salle d'armes, les tireurs, vêtus de toile grise, avec leurs vestes de peau, leurs pantalons serrés aux chevilles, une sorte de tablier tombant sur le ventre, un bras en l'air, la main repliée, et dans l'autre main rendue énorme par le gant, le mince et souple fleuret, s'allongeait et se redressait avec une brusque souplesse de pantin mécanique. D'autres se reposaient, causaient, encore essoufflés, rouges, en sueur, un mouchoir à la main pour éponger leur front et leur cou. D'autres, assis sur le divan carré qui faisait le tour de la grande salle, regardaient les assauts. Liverdi contre Landa et le maître du cercle, Taillade, contre le grand Rogdiane. Bertin, souriant, chez lui, serrait les mains. « Je vous retiens !» lui cria le baron de Bavry. « Je suis à vous, mon cher !» Et il passa dans le cabinet de toilette pour se déshabiller. Depuis longtemps, il ne s'était senti aussi agile et vigoureux, et, devinant qu'il allait faire un excellent assaut, il se hâtait avec une impatience d'écolier qui va jouer. Dès qu'il eut devant lui son adversaire, il l'attaqua avec une ardeur extrême, et en 10 minutes, l'ayant touché 11 fois, le fatigua si bien que le baron demanda grâce. Puis il tira avec punissimon, et avec son confrère à Maury Maldan. La douche froide, ensuite, glaçant sa chair haletante, lui rappela les bains de la 20e année, quand il piquait des têtes dans la Seine, du haut des ponts de la banlieue, en plein automne, pour épater les bourgeois. « Tu dînes ici ?» lui demandait Maldan. « Oui. Nous avons une table avec Liverdi, Rogdiane et Landa. Dépêche-toi, il est 7h15. » La salle à manger, pleine d'hommes, bourdonnait. Il y avait là tous les vagabonds nocturnes de Paris, des désœuvrés et des occupés, tous ceux qui, à partir de 7 heures du soir, ne savent plus que faire et dînent au cercle pour s'accrocher, grâce au hasard d'une rencontre, à quelque chose ou à quelqu'un. Quand les 5 amis se furent assis, le banquier Liverdi, un homme de 40 ans, vigoureux et trapu, dit à Bertin « Vous étiez enragé ce soir ?» Le peintre répondit « Oui, aujourd'hui je ferai des choses surprenantes. » Les autres sourirent. Et le paysagiste Amaury Maldan, un petit maigre, chauve, avec une barbe grise, dit d'un air fin « Moi aussi, j'ai toujours un retour de sève en avril. Ça me fait pousser quelques feuilles, une douzaine au plus, puis ça coule en sentiments. Il n'y a jamais de fruits. » Le marquis de Rogdiane et le comte de Lande le plaignirent. Plus âgés que lui, tous deux, sans qu'aucun œil exercé pût fixer leur âge, hommes de cercle, de cheval et d'épée, à qui les exercices incessants avaient fait des corps d'acier, ils se vantaient d'être plus jeunes, en tout, que les polissons énervés de la génération nouvelle. Rogdiane, de bonne race, fréquentant tous les salons, mais suspect de tripotage d'argent de toute nature, ce qui n'était pas étonnant, disait Bertin, après avoir tant vécu dans les tripots, marié, séparé de sa femme qui lui payait une rente, administrateur de banques belges et portugaises, portait haut, sur sa figure énergique de Don Quichotte, un honneur un peu terni de gentilhomme à tout faire, que nettoyait de temps en temps le sang d'une piqûre en duel. Le comte de Landa, un bon colosse, fier de sa taille et de ses épaules, bien que marié et père de 2 enfants, ne se décidait qu'à grand peine à dîner chez lui 3 fois par semaine, et restait au cercle les autres jours avec ses amis, après la séance de la salle d'armes. « Le cercle est une famille, » disait-il, « la famille de ceux qui n'en ont pas encore, de ceux qui n'en auront jamais, et de ceux qui s'ennuient dans la leur. » La conversation, partie sur le chapitre « Femmes », roula d'anecdotes en souvenirs et de souvenirs en vanteries, jusqu'aux confidences indiscrètes. Le marquis de Roquedienne laissait soupçonner ses maîtresses par des indications précises, femmes du monde dont il ne disait pas les noms, afin de les faire mieux deviner. Le banquier Liverdi désignait les siennes par leurs prénoms. Il racontait « J'étais au mieux, en ce moment-là, avec la femme d'un diplomate. Or, un soir, en la quittant, je lui dis « Ma petite Marguerite !» Il s'arrêtait au milieu des sourires, puis reprenait « Hein, j'ai laissé échapper quelque chose. On devrait prendre l'habitude d'appeler toutes les femmes Sophie. » Olivier Bertin, très réservé, avait coutume de déclarer, quand on l'interrogeait, « Moi, je me contente de mes modèles. » On feignait de le croire. Et Landa, un simple coureur de filles, s'exaltait à la pensée de tous les jolis morceaux qui trottent par les rues et de toutes les jeunes personnes déshabillées devant le peintre à 10 francs l'heure. À mesure que les bouteilles se vidaient, tous ces grisons, comme les appelaient les jeunes du cercle, tous ces grisons, dont la face rougissait, s'allumaient, secoués de désirs réchauffés et d'ardeurs fermentées. Roquediane, après le café, tombait dans des indiscrétions plus véridiques et oubliait les femmes du monde pour célébrer les simples cocottes. « Paris, disait-il, un verre de cumel à la main, la seule ville où un homme ne vieillisse pas, la seule où, à 50 ans, pourvu qu'il soit solide et bien conservé, il trouvera toujours une gamine de 18 ans, jolie comme un ange, pour l'aimer. » Landa, retrouvant son Roquediane d'après les liqueurs, l'approuvait avec enthousiasme, énumérait les petites filles qu'il adorait encore tous les jours. Mais Liverdi, plus sceptique et prétendant savoir exactement ce que valent les femmes, murmurait « Oui, elles vous le disent, qu'elles vous adorent. » Landa riposta « Elles me le prouvent, mon cher !»« Ces preuves-là ne comptent pas. » « Elles me suffisent !» Roquediane criait. « Mais elle le pense, sacrebleu ! Croyez-vous qu'une jolie petite gueuse de 20 ans, qui fait la fête depuis 5 ou 6 ans déjà, la fête à Paris, où toutes nos moustaches lui ont appris et gâté le goût des baisers, sait encore distinguer un homme de 30 d'avec un homme de 60 ? Allons donc, quelle blague ! Elle en a trop vu et trop connu. Tenez, je vous parie qu'elle aime mieux, au fond du cœur, mais vraiment mieux, un vieux banquier qu'un jeune gommeux. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle réfléchit à ça? Est-ce que les hommes ont un âge, ici? Eh, mon cher, nous autres, nous rajeunissons en blanchissant, et plus nous blanchissons, plus on nous dit qu'on nous aime, plus on nous le montre, et plus on le croit. » Ils se levèrent de table, congestionnés et fouettés par l'alcool, prêts à partir pour toutes les conquêtes. Et ils commençaient à délibérer sur l'emploi de leur soirée, Bertin parlant du cirque, Roquediane de l'hippodrome, Maldan de l'Éden, et Landa des folies bergères, quand un bruit de violon qu'on accorde, léger, lointain, vint jusqu'à eux. « Tiens, il y a donc musique aujourd'hui au cercle ?» dit Roquediane. « Oui, répondit Bertin, si nous y passions 10 minutes avant de sortir. Allons !» Ils traversèrent un salon, la salle de billard, une salle de jeu, puis arrivèrent dans une sorte de loge dominant la galerie des musiciens. 4 messieurs, enfoncés en des fauteuils, attendaient déjà d'un air recueilli, tandis qu'en bas, au milieu des rangs de sièges vides, une dizaine d'autres causaient, assis ou debout. Le chef d'orchestre tapait sur le pupitre à petits coups de son archet. On commença. Olivier Bertin adorait la musique, comme on adore l'opium. Elle le faisait rêver. Dès que le flot sonore des instruments l'avait touché, il se sentait emporté dans une sorte d'ivresse nerveuse qui rendait son corps et son intelligence incroyablement vibrants. Son imagination s'en allait comme une folle, grisée par les mélodies, à travers des songeries douces et d'agréables rêvasseries. Les yeux fermés, les jambes croisées, les bras mous, il écoutait les sons et voyait des choses qui passaient devant ses yeux et dans son esprit. L'orchestre jouait une symphonie de Haydn, et le peintre, dès qu'il eut baissé ses paupières sur son regard, revit le bois, la foule des voitures autour de lui, et en face, dans le landau, la comtesse et sa fille. Il entendait leur voix, suivait leurs paroles, sentait le mouvement de la voiture, respirait l'air plein d'odeurs de feuilles. Trois fois, son voisin, lui parlant, interrompit cette vision, qui recommença trois fois, comme recommence, après une traversée en mer, le roulis du bateau dans l'immobilité du lit. Puis elle s'étendit, s'allongea en un voyage lointain, avec les deux femmes, assises toujours devant lui, tantôt en chemin de fer, tantôt à la table d'hôtels étrangers. Durant toute la durée de l'exécution musicale, elles l'accompagnèrent ainsi, comme si elles avaient laissé, durant cette promenade au grand soleil, l'image de leurs deux visages empreinte au fond de son œil. Un silence, puis un bruit de siège remué et de voix, chassèrent cette vapeur de songe, et il aperçut, sommeillant autour de lui, ses quatre amis, en des postures naïves d'attention changées en sommeil. Quand il les eut réveillés, « Eh bien, que faisons-nous maintenant ? » dit-il. « Moi, répondit avec franchise Rogdiane, j'ai envie de dormir ici encore un peu. »«
Et moi aussi, » reprit Landa.
Bertin se leva. « Eh bien, moi, je rentre, je suis un peu là. » Il se sentait, au contraire, fort animé, mais il désirait s'en aller, par crainte des fins de soirée qu'il connaissait si bien autour de la table de baccarat du cercle. Il rentra donc, et le lendemain, après une nuit de nerfs, une de ces nuits qui mettent les artistes dans cet état d'activité cérébrale baptisé « inspiration », il se décida à ne pas sortir et à travailler jusqu'au soir. Ce fut une excellente journée, une de ces journées de production facile où l'idée semble descendre dans les mains et se fixer d'elle-même sur la toile. Les portes closes, séparées du monde, dans la tranquillité de l'hôtel fermé pour tous, dans la paix amie de l'atelier, l'œil clair, l'esprit lucide, surexcité, alerte, il goûta ce bonheur donné aux seuls artistes d'enfanter leur œuvre dans l'allégresse. Rien n'existait plus pour lui pendant ses heures de travail que le morceau de toile où naissait une image sous la caresse de ses pinceaux. Et il éprouvait, en ses crises de fécondité, une sensation étrange et bonne de vie abondante qui se grise et se répand. Le soir, il était brisé, comme après une saine fatigue, et il se coucha avec la pensée agréable de son déjeuner du lendemain. La table fut couverte de fleurs, le menu très soigné pour Madame de Guilleroy, gourmande raffinée, et malgré une résistance énergique, mais courte, le peintre força ses convives à boire du champagne.
« La petite sera ivre !» disait la comtesse.
La duchesse indulgente répondait « Mon Dieu, il faut bien l'être une première fois !» Tout le monde, en retournant dans l'atelier, se sentait un peu agité par cette gaieté légère qui soulève comme si elle faisait pousser des ailes aux pieds. La duchesse et la comtesse, ayant une séance au comité des mères françaises, devait reconduire la jeune fille avant de se rendre à la société. Mais Bertin offrit de faire un tour à pied avec elle en la ramenant boulevard Malesherbes. Et ils sortirent tous les deux.
« Prenons par le plus long, » dit-elle. « Veux-tu rôder dans le parc Monceau ? C'est un endroit très gentil. Nous regarderons les mioches et les nourrices. »«
Mais oui, je veux bien. »
Ils franchirent par l'avenue Velasquez la grille dorée et monumentale qui sert d'enseigne et d'entrée à ce bijou de parc élégant, étalant en plein Paris sa grâce factice et verdoyante au milieu d'une ceinture d'hôtels princiers. Le long des larges allées, qui déploient à travers les pelouses et les massifs leurs courbes savantes, une foule de femmes et d'hommes, assis sur des chaises de fer, regardent défiler les passants, tandis que, par les petits chemins enfoncés sous les ombrages et serpentant comme des ruisseaux, un peuple d'enfants grouille dans le sable, court, saute à la corde sous l'œil indolent des nourrices ou sous le regard inquiet des mères. Les arbres énormes, arrondis en dômes comme des monuments de feuilles, les marronniers géants, dont la lourde verdure est éclaboussée de grappes rouges ou blanches, les sycomores, distingués, les platanes décoratifs avec leurs troncs savamment tourmentés, ornent en des perspectives séduisantes les grands gazons onduleux. Il fait chaud, les tourterelles roucoulent dans les feuillages et voisinent de cime en cime, tandis que les moineaux se baignent dans l'arc-en-ciel dont le soleil enlumine la poussière d'eau des arrosages égrenés sur l'herbe fine. Sur leur socle, les statues blanches semblent heureuses dans cette fraîcheur verte. Un jeune garçon de marbre retire de son pied une épine introuvable, comme s'il s'était piqué tout à l'heure en courant après la Diane, qui fuit là-bas vers le petit lac emprisonné dans les bosquets, où s'abrite la ruine d'un temple. D'autres statues s'embrassent, amoureuses et froides, au bord des massifs, ou bien rêvent, un genou dans la main. Une cascade écume et roule sur de jolis rochers. Un arbre, tronqué comme une colonne, porte un lierre. Un tombeau porte une inscription. Les fûts de pierre dressés sur les gazons ne rappellent guère plus l'acropole que cet élégant petit parc ne rappelle les forêts sauvages. C'est l'endroit artificiel et charmant où les gens de ville vont contempler des fleurs élevées en des serres et admirer, comme on admire au théâtre le spectacle de la vie, cette aimable représentation que donne, en plein Paris, la belle nature. Olivier Bertin, depuis des années, venait presque chaque jour en ce lieu préféré pour y regarder les Parisiennes se mouvoir en leur vrai cadre. « C'est un parc fait pour la toilette, » disait-il. « Les gens mal mis y font horreur. » Et il rôdait pendant des heures, en connaissait toutes les plantes et tous les promeneurs habituels. Il marchait à côté d'Annette, le long des allées, l'œil distrait par la vie bariolée et remuante du jardin. « Oh, l'amour !» cria-t-elle. Elle contemplait un petit garçon à boucles blondes qui la regardait de ses yeux bleus, d'un air étonné et ravi. Puis, elle passa une revue de tous les enfants, et le plaisir qu'elle avait à voir ces vivantes poupées enrubannées la rendait bavarde et communicative. Elle marchait à petits pas, disait à Bertin ses remarques, ses réflexions sur les petits, sur les nourrices, sur les mères. Les enfants gros lui arrachaient des exclamations de joie, et les enfants pâles la pitoyaient. Il l'écoutait, amusé par elle, plus que par les mioches, et sans oublier la peinture, murmurait « C'est délicieux !» en songeant qu'il devrait faire un exquis tableau, avec un coin du parc et un bouquet de nourrices, de mères et d'enfants. Comment n'y avait-il pas songé ? « Tu aimes ces galopins, là ? » dit-il. « Je les adore !» À la voir les regarder, il sentait qu'elle avait envie de les prendre, de les embrasser, de les manier. Une envie matérielle et tendre de mère future. Et il s'étonnait de cet instinct secret caché en cette chair de femme. Comme elle était disposée à parler, il l'interrogea sur ses goûts. Elle avoua des espérances de succès et de gloire mondaine avec une naïveté gentille, désira de beaux chevaux qu'elle connaissait presque en Maquignon, car l'élevage occupait une partie des fermes de Roncières. Et elle ne s'inquiéta guère plus d'un fiancé que de l'appartement qu'on trouverait toujours dans la multitude des étages à louer. Ils approchaient du lac où deux cygnes et six canards flottaient doucement, aussi propres et calmes que des oiseaux de porcelaine. Et ils passèrent devant une jeune femme assise sur une chaise, un livre ouvert sur les genoux, les yeux levés devant elle, l'âme envolée dans une songerie. Elle ne bougeait pas plus qu'une figure de cire. Laide, humble, vêtue en fille modeste qui ne songe point à plaire, une institutrice peut-être. Elle était partie pour le rêve, emportée par une phrase ou par un mot qui avait ensorcelé son cœur. Elle continuait, sans doute, selon la poussée de ses espérances, l'aventure commencée dans le livre. Bertin s'arrêta, surpris. « C'est beau, » dit-il, « de s'en aller comme ça. » Ils avaient passé devant elle. Ils retournèrent et revinrent encore sans qu'elle les aperçût, tant elle suivait de toute son attention le vol lointain de sa pensée. Le peintre dit à Annette, « Dis donc, petite, est-ce que ça t'ennuierait de me poser une figure une fois ou deux ?»« Mais non, au contraire !»« Regarde bien cette demoiselle qui se promène dans l'idéal. » Là, sur cette chaise ? Oui. Eh bien, tu t'assoiras aussi sur une chaise. Tu ouvriras un livre sur tes genoux et tu tâcheras de faire comme elle. As-tu quelquefois rêvé tout éveillé ?
Mais oui !
À quoi ? Et il essaya de la confesser sur ses promenades dans le bleu. Mais elle ne voulait point répondre, détournait ses questions. Regardaient les canards nager après le pain que leur jetait une dame et semblaient gênés comme s'il eût touché en elle à quelque chose de sensible. Puis, pour changer de sujet, elle raconta sa vie à Roncières, parla de sa grand-mère, à qui elle faisait de longues lectures à haute voix, tous les jours, et qui devait être bien seule et bien triste maintenant. Le peintre, en l'écoutant, se sentait gai comme un oiseau, gai comme il ne l'avait jamais été. Tout ce qu'elle lui disait, tous les menus et futiles et médiocres détails de cette simple existence de fillette, l'amusaient et l'intéressaient. « Asseyons-nous, » dit-il. Ils s'assirent auprès de l'eau, et les deux cygnes s'en vinrent flotter devant eux, espérant quelque nourriture. Bertin sentait en lui s'éveiller des souvenirs, ces souvenirs disparus, noyés dans l'oubli, et qui soudain reviennent, on ne sait pourquoi. Ils surgissaient, rapides, de toutes sortes, si nombreux en même temps qu'il éprouvait la sensation d'une main remuant la vase de sa mémoire. Il cherchait pourquoi avait lieu ce bouillonnement de sa vie ancienne, que plusieurs fois déjà, moins qu'aujourd'hui cependant, il avait senti et remarqué. Il existait toujours une cause à ces évocations subites, une cause matérielle et simple, une odeur, un parfum, souvent. Que de fois une robe de femme lui avait jeté au passage, avec le souffle évaporé d'une essence, tout un rappel d'événements effacés. Au fond des vieux flacons de toilette, il avait retrouvé souvent aussi des parcelles de son existence, et toutes les odeurs errantes, celles des rues, des champs, des maisons, des meubles, les douces et les mauvaises, les odeurs chaudes des soirs d'été, les odeurs froides des soirs d'hiver, ranimaient toujours chez lui de lointaines réminiscences, comme si les senteurs gardaient en elles les choses mortes embaumées, à la façon des aromates qui conservent les momies. Était-ce l'herbe mouillée ou la fleur des marronniers qui ranimait ainsi l'autrefois ? Non. Alors quoi ? Était-ce à son œil qu'il devait cette alerte ? Qu'avait-il vu ? Rien. Parmi les personnes rencontrées, Une d'elles peut-être ressemblait à une figure de jadis, et, sans qu'il l'eût reconnue, secouait en son cœur toutes les cloches du passé. N'était-ce pas un son, plutôt? Bien souvent, un piano entendu par hasard, une voix inconnue, même un orgue de barbarie jouant sur une place un air démodé, l'avait brusquement rajeuni de 20 ans, en lui gonflant la poitrine d'attendrissements oubliés. Mais cet appel continuait, incessant, insaisissable, presque irritant. Qu'y avait-il autour de lui, près de lui, pour raviver de la sorte ses émotions éteintes? « Il fait un peu frais, dit-il. Allons-nous-en. » Ils se levèrent et se remirent à marcher. Ils regardaient sur les bancs les pauvres assis, ceux pour qui la chaise était une trop forte dépense. Annette, maintenant, les observait aussi et s'inquiétait de leur existence, de leur profession. S'étonnait qu'ayant l'air si misérable, ils vinssent paraisser ainsi dans ce beau jardin public. Et plus encore que tout à l'heure, Olivier remontait les années écoulées. Il lui semblait qu'une mouche ronflait à ses oreilles et les emplissait du bourdonnement confus des jours finis. La jeune fille, le voyant rêveur, lui demanda « Qu'avez-vous? Vous semblez triste. » Et il tressaillit jusqu'au cœur. Qui avait dit cela? Elle ou sa mère? Non, pas sa mère, avec sa voix d'à présent, mais avec sa voix d'autrefois, tant changée qu'il venait seulement de la reconnaître. Il répondit en souriant, « Je n'ai rien, tu m'amuses beaucoup, tu es très gentille, tu me rappelles ta maman. » Comment n'avait-il pas remarqué plus vite cet étrange écho de la parole jadis si familière qui sortait à présent de ses lèvres nouvelles. « Parle encore, » dit-il. « De quoi ? Dis-moi ce que tes institutrices t'ont fait apprendre. Les aimais-tu ?» Elle se remit à bavarder. Et il écoutait, saisi par un trouble croissant. Il épiait, il attendait, au milieu des phrases de cette fillette, presque étrangère à son cœur, un mot, un son, un rire qui semblait rester dans sa gorge depuis la jeunesse de sa mère. Des intonations, parfois, le faisaient frémir d'étonnement. Certes, il y avait entre leurs paroles des dissemblances telles qu'il n'en avait pas tout de suite remarqué les rapports, telles que, souvent même, il ne les confondait plus du tout. Mais cette différence ne rendait que plus saisissant les brusques réveils du parler maternel. Jusqu'ici, il avait constaté la ressemblance de leur visage, d'un œil amical et curieux. Mais voilà que le mystère de cette voix ressuscitée les mêlait d'une telle façon qu'en détournant la tête pour ne plus voir la jeune fille, il se demandait par moments si ce n'était pas la comtesse qui lui parlait ainsi 12 ans plus tôt. Puis, lorsqu'halluciné par cette évocation, il se retournait vers elle, il retrouvait encore, à la rencontre de son regard, un peu de cette défaillance que jetait en lui, au premier temps de leur tendresse, l'œil de la mère. Ils avaient déjà fait 3 fois le tour du parc, repassant toujours devant les mêmes personnes, les mêmes nourrices, les mêmes enfants. Annette, à présent, inspectait les hôtels qui entourent ce jardin et demandait les noms de leurs habitants. Elle voulait tout savoir sur toutes ces gens, interrogeait avec une curiosité vorace, semblait emplir de renseignements sa mémoire de femme, et, la figure éclairée par l'intérêt, écoutait des yeux autant que de l'oreille. Mais en arrivant au pavillon qui sépare les 2 portes sur le boulevard extérieur, Bertin s'aperçut que 4 heures allaient sonner. « Oh ! Dit-il, il faut rentrer. » Et ils gagnèrent doucement le boulevard Malesherbes. Quand il eut quitté la jeune fille, le peintre descendit vers la place de la Concorde pour faire une visite sur l'autre rive de la Seine. Il chantonnait, il avait envie de courir, il aurait volontiers sauté par-dessus les bancs tant il se sentait agile. Paris lui paraissait radieux, plus joli que jamais. « Décidément, pensait-il, Le printemps revernit tout le monde. Il était dans une de ces heures où l'esprit excité comprend tout avec plus de plaisir, où l'œil voit mieux, semble plus impressionnable et plus clair, où l'on goûte une joie plus vive à regarder et à sentir, comme si une main toute puissante venait de rafraîchir toutes les couleurs de la terre, de ranimer tous les mouvements des êtres, et de remonter en nous, ainsi qu'une montre qui s'arrête, l'activité, les sensations. Il pensait, en cueillant du regard mille choses amusantes, dire qu'il y a des moments où je ne trouve pas de sujets à peindre. Et il se sentait l'intelligence si libre et si clairvoyante que toute son œuvre d'artiste lui parut banale et qu'il concevait une nouvelle manière d'exprimer la vie, plus vraie et plus originale. Et soudain, l'envie de rentrer et de travailler le saisit, le fit retourner sur ses pas et s'enfermer dans son atelier. Mais dès qu'il fut seul en face de la toile commencée, cette ardeur qui lui brûlait le sang tout à l'heure s'apaisa tout à coup. Il se sentit là, s'assit sur son divan et se remit à rêvasser. L'espèce d'indifférence heureuse dans laquelle il vivait, cette insouciance d'homme satisfait dont presque tous les besoins sont apaisés, s'en allait de son cœur tout doucement, comme si quelque chose lui eût manqué. Il sentait sa maison vide et désert son grand atelier. Alors, en regardant autour de lui, il lui sembla voir passer l'ombre d'une femme dont la présence lui était douce. Depuis longtemps, il avait oublié les impatiences d'amant qui attend le retour d'une maîtresse. Et voilà que, subitement, il la sentait éloignée et la désirait près de lui avec un énervement de jeune homme. Il s'attendrissait à songer combien il s'était aimé, et il retrouvait en tout ce vaste appartement où elle était si souvent venue d'innombrables souvenirs d'elle, de ses gestes, de ses paroles, de ses baisers. Il se rappelait certains jours, certaines heures, certains moments, et il sentait autour de lui le frôlement de ses caresses anciennes. Il se releva, ne pouvant plus tenir en place, et se mit à marcher en songeant de nouveau que, malgré cette liaison dont son existence avait été remplie, il demeurait bien seul, toujours seul. Après les longues heures de travail, quand il regardait autour de lui, étourdi par ce réveil de l'homme qui rentre dans la vie, il ne voyait et ne sentait que des murs à la portée de sa main et de sa voix. Il avait dû, n'ayant pas de femme en sa maison et ne pouvant rencontrer qu'avec des précautions de voleurs celles qu'il aimait, traîner ses heures désœuvrées en tous les lieux publics où l'on trouve, où l'on achète, des moyens quelconques de tuer le temps. Il avait des habitudes au cercle, des habitudes au cirque et à l'hippodrome, à jour fixe, des habitudes à l'opéra, des habitudes un peu partout, pour ne pas rentrer chez lui, où il serait demeuré avec joie sans doute s'il y avait vécu près d'elle. Autrefois, en certaines heures de tendre affolement, il avait souffert d'une façon cruelle de ne pouvoir la prendre et la garder avec lui. Puis, son ardeur se modérant, il avait accepté sans révolte leur séparation et sa liberté. Maintenant, il les regrettait de nouveau, comme s'il recommençait à l'aimer. Et ce retour de tendresse l'envahissait ainsi brusquement, presque sans raison, parce qu'il faisait beau dehors et peut-être parce qu'il avait reconnu tout à l'heure la voix rajeunie de cette femme. Combien peu de choses il faut pour émouvoir le cœur d'un homme vieillissant, chez qui le souvenir se fait regret. Comme autrefois, le besoin de la revoir lui venait, entrait dans son esprit et dans sa chair à la façon d'un lièvre. Et il se mit à penser à elle un peu comme font les jeunes amoureux, en l'exaltant en son cœur et en s'exaltant lui-même pour la désirer davantage. Puis il se décida, bien qu'il l'eût vue dans la matinée, à aller lui demander une tasse de thé le soir même. Les heures lui parurent longues, et, en sortant pour descendre au boulevard Malesherbes, Une peur vive le saisit de ne pas la trouver et d'être forcé de passer encore cette soirée tout seul, comme il en avait passé bien d'autres pourtant. À sa demande, « La comtesse est-elle chez elle ?» Le domestique répondant « Oui, monsieur », fit entrer de la joie en lui. Il dit d'un ton radieux « C'est encore moi !» en apparaissant au seuil du petit salon où les deux femmes travaillaient sous les abat-jours roses d'une lampe à double foyer en métal anglais portée sur une tige haute et mince. La comtesse s'écria « Comment, c'est vous ? Quelle chance !»« Mais oui, je me suis sentie très solitaire et je suis venue. » « Comme c'est gentil !»« Vous attendez quelqu'un ?»« Non, peut-être, je ne sais jamais. » Il s'était assis et regardait avec un air de dédain le tricot gris en grosse laine qu'elle confectionnait vivement au moyen de longues aiguilles en bois. Il demanda « Qu'est-ce que cela ?»«
Des couvertures. » »«
De pauvres ?»«
Oui, bien entendu. » »«
C'est très laid. »
« C'est très chaud. »«
Possible, mais c'est très laid, surtout dans un appartement Louis XV où tout caresse l'œil. Si ce n'est pour vos pauvres, vous devriez, pour vos amis, faire vos charités plus élégantes. »«
Mon Dieu, les hommes !» dit-elle en haussant les épaules. « Mais on en prépare partout en ce moment de ces couvertures-là. »«
Je le sais bien, je le sais trop. »
On ne peut plus faire une visite le soir sans voir traîner cette affreuse loque grise sur les plus jolies toilettes et sur les meubles les plus coquets. On a ce printemps la bienfaisance de mauvais goût. »
La comtesse, pour juger s'il disait vrai, étendit le tricot qu'elle tenait sur la chaise de soie inoccupée à côté d'elle, puis elle convint avec indifférence « Oui, en effet, c'est laid. » Et elle se remit à travailler. Les deux têtes voisines, penchées sous les deux lumières toutes proches, recevaient dans les cheveux une coulée de lueur rose qui se répandait sur la chair des visages, sur les robes et sur les mains remuantes. Et elles regardaient leur ouvrage avec cette attention légère et continue des femmes habituées à ces besognes des doigts que l'œil suit sans que l'esprit y songe. Aux quatre coins de l'appartement, quatre autres lampes en porcelaine de Chine, portées sur des colonnes anciennes de bois doré, répandaient sur les tapisseries une lumière douce et régulière, atténuée par des transparents de dentelle jetés sur les globes. Bertin prit un siège très bas, un fauteuil nain, où il pouvait tout juste s'asseoir, mais qu'il avait toujours préféré pour causer avec la comtesse, en demeurant presque à ses pieds. Elle lui dit « Vous avez fait une longue promenade avec Nanet tantôt dans le parc. »«
Oui, nous avons bavardé comme de vieux amis. »«
Je l'aime beaucoup, votre fille. »«
Elle vous ressemble. » »«
Tout à fait. » »« Quand elle prononce certaines phrases, on croirait que vous avez oublié votre voix dans sa bouche. »«
Mon mari me l'a déjà dit bien souvent. »
Il les regardait travailler, baignés dans la clarté des lampes, et la pensée dont il souffrait souvent, dont il avait encore souffert dans le jour, le souci de son hôtel désert, immobile, silencieux, froid, quel que soit le temps, quel que soit le feu des cheminées et du calorifère, le chagrina, comme si pour la première fois il comprenait bien son isolement. Oh, comme il aurait décidément voulu être le mari de cette femme, et non son amant. Jadis, il désirait l'enlever, la prendre à cet homme, la lui voler complètement. Aujourd'hui, il le jalousait, ce mari trompé, qui était installé près d'elle pour toujours, dans les habitudes de sa maison et dans le câlinement de son contact. En la regardant, il se sentait le cœur tout rempli de choses anciennes revenues qu'il aurait voulu lui dire. Vraiment, il l'aimait bien encore. Même un peu plus, beaucoup plus aujourd'hui qu'il n'avait fait depuis longtemps. Et ce besoin de lui exprimer ce rajeunissement dont elle serait si contente lui faisait désirer qu'on envoyât se coucher la jeune fille le plus vite possible. Obsédé par cette envie d'être seul avec elle, de se rapprocher jusqu'à ses genoux où il poserait sa tête, de lui prendre les mains, dont s'échapperait la couverture du pauvre, les aiguilles de bois et la pelote de laine qui s'en irait sous un fauteuil au bout d'un fil déroulé. Il regardait l'heure, ne parlait plus guère, et trouvait que vraiment, on a tort d'habituer les fillettes à passer la soirée avec les grandes personnes. Des pas troublèrent le silence du salon voisin, et le domestique, dont la tête apparut, annonça « Monsieur de Musadieu ».